Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Coup de cœur littéraire.
J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas.
Rencontre.
Déjà, le titre est une absurdité, c'est une erreur totale.
Auteur, éditeur.
C'est quoi la parole sur un texte? C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas?
Grain de Fleur Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribde.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Grande Fleur Café. Le premier des trois livres aujourd'hui, c'est Work Bitch de Ludovic Bernhardt, publié en octobre 2019 aux éditions Joux. Alors, de quoi s'agit-il avec Work Bitch ? Work Bitch, il s'agit de saisir et de réinventer la langue sèche, la langue brute, la langue sans fioritures, langue réputée purement factuelle, qui transmet pourtant toute la volonté de convaincre et de séduire par tous les moyens, même les plus ignobles, même les plus désespérés, la langue des storytelling vidéo, des publicités contemporaines, dans leurs formes les plus achevées, celle du clip promotionnel, musical, et celle du court-métrage institutionnel d'entreprise. Alors c'est le pari qu'a tenté Ludovic Bernhardt, donc avec Work Bitch, et c'est un pari que je trouve superbement réussi, même si je me dois par déontologie de mentionner que étant l'un des éditeurs des éditions Joux, je ne suis pas totalement objectif, vous l'aurez deviné. Alors en 80 pages qui sont composées de 5 maps, Work Bitch atteint une densité qui est légèrement surréelle, dans laquelle les stars déhanchées de R&B, les robotisations industrielles, les incitations à investir à Dubaï, les incursions de drones récréatifs, les slogans corporate et les paroles vides des chansons à succès, compose une sarabande complètement furieuse et pourtant soigneusement désincarnée, qui n'hésite pas à convoquer dans les interstices qu'elle laisse un peu vacants, alors que le rythme même est complètement échevelé et saccadé. On y trouvera le Mike Davis du Stade Dubaï du capitalisme, le Grégoire Chemaillou de Théorie du drone, l'Éric Vuillard de La guerre des pauvres, ou encore le Patrick Bouvet de Carte son ou de Trip Machine. Je ne résiste pas à l'envie de vous en donner quelques très brefs extraits pour saisir cette langue particulière, qui est quand même une langue qui tente de traduire ce que ne disent pas en fait les vidéos. Dans une salle de classe, un gros plan révèle la chaussure à haut talon d'une lycéenne à gilet gris et chemisier blanc. Son pied tape mécaniquement contre le tube chromé de la table. Ses cheveux blonds sont coiffés d'un élastique rose à longs poils ébouriffés. Dans une usine automobile, une voiture rouge, brillante, dépourvue de roues et de moteur, est suspendue à une machine qui descend son bras articulé vers le sol. Un ouvrier en tenue bleue agrippe la carrosserie pour la diriger vers un socle de réception. Plus loin, dans une usine de fabrication de produits pharmaceutiques, une quinzaine d'hommes et de femmes en blouse hygiénique circulent entre des machines chromées en prenant des photos de l'environnement industriel spacieux. Sur un podium vierge de tout décor, situé en face d'une piscine, 5 filles télégéniques se déhanchent en caressant leurs fessiers. Une boîte à rythme froide et synthétique martèle leur entrée dans l'arène du voyeurisme. Dans l'usine de fabrication de produits pharmaceutiques, la quinzaine d'hommes et de femmes en blouse hygiénique observent autour d'eux tandis qu'un plan rapproché nous montre une série de bocaux en verre rangés sur une table. Sur le podium vierge de tout décor situé en face d'une piscine, la star lance un « Iwana » impérieux qu'elle répète machinalement en suivant le beat et son BPM simplissime. Enfin, dans le ciel bleu cyan, un drone survole un terrain arasé. Sa caméra enregistre les moindres détails passant sous le scanner de son œil électronique relié à des algorithmes de calcul. Dans le ciel bleu cyan, le drone survole une mer turquoise vers une étendue de sable et une enfilade de gratte-ciel. Des vaguelettes écumeuses agitent l'eau, une musique atmosphérique se cale sur les images filmées. Dans le ciel bleu cyan, le drone plane au-dessus de la plage, effectue un panoramique à l'angle d'un bâtiment officiel dominé par 2 drapeaux d'État constitués de bandes vertes, blanches, noires et rouges. Dans le ciel bleu, devenu turquoise, le drone dévie son angle vers une tour de 30 étages en forme d'aileron géant, construite dans la mer sur un îlot de sable, situé à 20 mètres de la plage. Son œil englobe une piscine et un port de plaisance de luxe. Alors Work Bitch, c'est un redoutable succès d'année de sorcellerie visuelle capitaliste mise à nu par les mots. Le texte propose de peser soigneusement, au détour du choc des vidéos qui sont ainsi froidement et malicieusement mises en mots, les significations qui résonnent entre elles, des termes Work Bitch de Britney Spears, qui ne sont pas tout à fait celles du Slave to the Wedge de Placebo, et offre un regard très singulier, incisif, cruel, sur ce que tente de nous faire au quotidien le storytelling rythmique contemporain. Donc si je devais résumer, c'est le choc des vidéos, l'absence de poids des mots, c'est une incursion sauvage et froide dans l'esclavage visuel contemporain. Alors, le deuxième roman de notre sélection aujourd'hui s'appelle Bubblegum. Bubblegum, c'est le deuxième roman d'Adam Levine, C'est publié aux éditions Incul Dernière Marge, dans une belle traduction de Maxime Béret, et ça a été publié en octobre 2019. Il faut mentionner, parce que c'est quand même pas si fréquent, que le roman paraît donc en français, traduit 6 mois avant de paraître aux États-Unis, en anglais, en langue originale. Et Bubblegum, donc, c'est un deuxième roman. Alors, on peut pas raconter Bubblegum, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais en tout cas, voilà de ce dont il s'agit. Depuis l'enfance, Belt Magnet entend les objets inanimés. Et il leur répond le plus discrètement possible pour éviter les ennuis. Hein. Il est malin, il se doute bien que parler à des objets inanimés, ça va lui créer des soucis. Donc il est discret jusqu'au moment où, alors qu'il approche de l'adolescence, il cède en fait aux complaintes de certains habitants métalliques des pelouses privées, des squares municipaux, de la bonne ville de Willetine, près de Chicago. Il devient le tueur de balançoires. Il abrège leurs souffrances rouillées à grands coups de batte de baseball. Petit à petit, ça sait, par bouche à oreille, il y a un public de gamins qui vient, qui le voit, et évidemment, inévitablement, même si c'est un peu par inadvertance, il se retrouve dénoncé. Donc il entre, bien que ses parents continuent à le choyer et avoir confiance en lui, il entre dans une longue convalescence, soigné pour cette psychose évidente, hein, puisque on ne peut pas entendre des objets inanimés qui n'ont pas d'âme, comme chacun sait, même si cette psychose est globalement plutôt inoffensive. Et le roman démarre lorsque, 38 ans plus tard, à 38 ans, donc mettons une grosse vingtaine d'années plus tard, il entreprend de rédiger ses mémoires de romancier, puisqu'il est alors l'auteur d'un unique ouvrage, plutôt bien considéré, mais pas très connu, soyons honnêtes. Et il vit seul avec son père, toujours à Willetine, puisque sa mère est décédée il y a déjà un bon moment à ce moment-là. Et en entamant ses mémoires, il nous offre un étonnant festival de souvenirs qui sont méticuleusement articulés, malgré l'impression qu'on voyait avec ruse, parce que c'est bourré de digressions apparentes, que Adam Levine nous offre au nom de Belt Magnet, presque 10 ans donc après ces fabuleuses instructions qui, pour mémoire, racontaient la révolte, presque la révolution orchestrée par un jeune gamin israélite surdoué dans une école privée pour enfants spéciaux de la banlieue de Chicago. Donc évidemment, il y a aussi une parenté avec les instructions, je vous laisserai la découvrir à la lecture. Bubblegum, c'est un roman qui est copieux. Avec plus de 1000 pages, c'est un roman qui appartient, comme par exemple Le Jérusalem d'Alan Moore ou Le Solénoïde de Mircea Cărtărescu, à la confrérie des livres univers, les livres qui refusent de nous lâcher un instant, qui déploient leur subtilité vénéneuse et éventuellement drôle sous nos regards légèrement abasourdis de lectrices ou de lecteurs. Adam Levine, il joue à la perfection de ce filtre bizarrement déformant et totalement réjouissant qui est fourni par un personnage principal qui est vraiment différent. Il suranalyse tout. Belt Magnet, il permet à Adam Levine de déployer autour de lui une incroyable galerie de protagonistes. Alors l'importance et le rôle exact de chacun demeurent longtemps dissimulés par la narration, qui est une narration très rusée et très drôle, qui intercale le passé et le présent chaque fois que nécessaire pour mieux déchiffrer une certaine logique du monde actuel. Même si, je vais vous le dire dans un instant, ce n'est pas notre monde actuel. Alors en plus de ça, Adam Levine, il utilise très brillamment un arsenal de techniques littéraires, notamment des juxtapositions de supports, des collages, des transcriptions de bandes vidéo, des courriers authentiques, des articles de journaux. Et tout ça vient nourrir évidemment la narration principale, celle des mémoires de Belt Magnet. Cette maîtrise technique époustouflante est ici entièrement au service d'une narration qui est subtile, qui est caustique, où la drôlerie côtoie en permanence le tragique, et un tragique potentiellement vertigineux. Parce que, donc, comme je le disais, ce monde contemporain n'est pas tout à fait le nôtre. Puisque, par exemple, et c'est un exemple important, il ne connaît pas l'Internet. Le plus important phénomène de consommation de masse technologique de cet univers, c'est celui des curios. Les curios, ce sont des robots animalisés qui sont tellement mignons que ça rend pas tout à fait fou, mais ça donne envie littéralement de les manger. Et donc il y a une industrie colossale, une industrie planétaire autour des curios, de la façon de les modifier, de la façon de faire changer leur comportement, de la façon de les soigner, alors que ce sont des robots. Hein. Adam Levine, autour de ces curios, de son personnage, et je ne vous dirai certainement pas quel est le rapport entre Belt Magnet lui-même et les curios en général, Belt Magnet c'est un guide, c'est un compagnon qui est parfaitement hors du commun, et pourtant il est incroyablement familier. On a l'impression de l'avoir toujours connu malgré sa psychose et le fait qu'il entende les objets inanimés. Adam Levine nous prouve à nouveau qu'il sait manier, comme très peu d'auteurs, le rire pour nous interroger en profondeur. Il nous offre un absurde qui n'est pas si absurde, une normalité qui n'est peut-être pas si normale, en mobilisant les composantes les plus anodines comme les plus significatives d'une culture médiatique qui nous envahit, qui nous baigne doucement et nous dérobe parfois crûment la vision de l'essentiel. C'est ainsi que Bubblegum est une lecture passionnante et, j'ose le dire, nécessaire. Si on devait le résumer peut-être en un mot, Bubblegum, c'est ce que nous disent sans doute le net et les lolcats, sauf qu'il n'y a ni Net ni lolcat. C'est un chef-d'œuvre qui est époustouflant par son ambition et par sa drôlerie, même si c'est une drôlerie qui est pourtant très songeuse. Alors, comme il est de coutume, l'un des textes que nous présentons donc chaque semaine dans le podcast Grande Flore Café est un texte qui n'est pas une nouveauté de l'instant, mais un texte qui peut avoir 2 ans, 10 ans, 30 ans ou 100 ans ou encore plus. Ce texte-ci, c'est « Moi, Peter Pan » de Michael Rock, paru aux éditions Mu, qui est désormais également disponible en folio, paru en 2017. Comme le titre l'indique, ça fait évidemment référence à Peter Pan. Où on est, Wendy est rentrée à Londres. Peter Pan est resté, hein, naturellement, au pays imaginaire. Il est toujours aussi souverain de sa tribu dans enfant perdu, plus dépenaillé que jamais. Il a beau vouloir maintenir vivante l'étrange illusion qu'il pratique depuis toujours, les doutes le submergent peu à peu. Il ne parvient plus à ignorer, comme jadis, hein, le terrible ressort qu'a toujours été pour lui la peur de grandir. Alternant les moments de sombre méditation et les tentatives de raviver les aventures précédentes dans ce décor éternel qui est fourni par la fée Clochette, par l'île de la Tigresse, par la tribu indienne, par les sirènes, par le crocodile, même après la mort de Crochet, que va-t-il advenir de Peter Pan ? Les rêves ici ne sont plus tissés uniquement de jeux et de facéties. Le sérieux et la mort se sont durablement installés au pays de l'insouciance. Ils rôdent désormais comme un rude parfum de mélancolie sous les futaies et sur les rivages. Alors le personnage créé par Barry, hein, par l'écossais Barry en 1902, c'est sans doute devenu l'un des plus puissants mythes contemporains. Il explore le rapport de l'enfance et de l'âge adulte avec une vigueur que la psychologie moderne n'a pu que largement saluer. Les créateurs ne s'y sont pas trompés, hein, et au-delà des très nombreuses adaptations plus ou moins fidèles sur les planches ou à l'écran, et l'habituelle normalisation via Walt Disney en 1953, on ne peut que saluer par exemple hein, l'investigation très poussée conduite par Frezan, Rodrigo Frezan, un grand auteur argentin dans ses jardins de Kensington en 2003, ou l'invention de tenants et d'aboutissants potentiels orchestrée par Régis Loisel dans sa série de bandes dessinées publiée entre 1990 et 2004. Avec ce roman, donc publié chez Mu, Michael Rock, qui était alors surtout connu pour son travail en pulp avec les éditions Walrus et pour ses chroniques littéraires aux différentes croisées des genres qu'on appelle les mauvais genres, Michael Rock a su déceler un angle poétique très inattendu dans la roche un peu friable du pays imaginaire. Son Peter Pan, s'il respecte la majorité des canons du personnage mythique, ouvre des perspectives très rarement abordées, voire insoupçonnées, à part peut-être, comme je le disais, par Frezan. Il nous rappelle d'abord, hein, de manière éclatante, que le personnage de Barry, en réalité, et contrairement à son édulcoration par les studios Disney, nous parle beaucoup moins de l'enfance que de l'adolescence, quand se profile à l'horizon justement un changement de questionnement et qu'apparaissent progressivement la sexualité, la position vis-à-vis des autres, l'insertion psychoprofessionnelle qui s'approche, l'entrée forcée dans des relations de pouvoir bien différentes de celles qui prévalaient auparavant, toutes ces contraintes, qu'elles disent leur nom en tant que contraintes ou pas. Donc la mélancolie du Peter Pan de Michael Rock, c'est celle de l'angoisse adolescente conquérante, et la poésie inattendue, c'est celle de la découverte qui est au centre de ce petit roman du pouvoir performatif et charismatique du langage, bien au-delà de la seule action et de la seule aventure qui était jusque-là brandie comme justification existentielle. Il nous rappelle aussi, si c'était nécessaire, métaphoriquement et directement, et contrairement à tant de discours ambiants, qu'il n'y a pas besoin d'être vieux pour être mûr, et qu'être mûr ne signifie pas du tout être résigné à un état de choses délétère. C'est ainsi que moi, Peter Pan, échappe à la solitude de l'explication de texte de l'égoïste suprême, qu'est pour souvent à quoi est ramené le héros de 1902, et ce moi Peter Pan diffuse subrepticement un contenu qui est roboratif, qui est politique, qui est joliment désemparé, et ça il le fait au moment le moins attendu. Donc si on devait le résumer en une phrase, c'est un roman qui est poétique, qui est mélancolique, qui est résolument tourné vers un avenir hors des boucles sans fin, un Peter Pan qui est inattendu, qui est songeur et qui est séduisant. Voilà, c'est la fin du Grande Flore Café pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous aura donné envie donc de lire ces 3 ouvrages. Je vous les rappelle brièvement. Work Beach de Ludovic Bertnart aux éditions Joux en 2019. Bubblegum d'Adam Levine aux éditions Inculte Dernière Marge en 2019, dans une traduction de Maxime Béret. Et enfin, Moi Peter Pan de Michael Rock aux éditions Mu et en folio, publié en 2017. Ces ouvrages sont naturellement en vente chez Grande Contrôle à la librairie Caribde et dans bien d'autres librairies, vous vous en doutez. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
C'était Grande Flore Café, un épisode produit par Grande Contrôle avec la librairie Caribde.
C'était très bien, c'était très bien.
À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.